En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendu en croix la Judienne « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu, tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de
de la société.
unité politique et l'Église, tout en étant indépendantes et autonomes, chacune dans son domaine, sont toutefois toutes les deux, nous dit le Concile Vatican II, au service de la vocation personnelle et sociale des personnes humaines. Et la vocation de la personne humaine est d'origine divine. Dire que le Christ est roi, c'est donc affirmer que son humanité glorifiée, que dans son humanité glorifiée, le Christ a autorité comme Dieu, non seulement sur la terre, mais sur le cosmos tout entier, sur tous ces mondes dont nous connaissons l'existence, et sur tous ceux que nous ne connaissons pas encore. Dire que le Christ est roi, c'est proclamer aussi qu'il est le maître de l'histoire pour tous les peuples et dans tous les temps, et qu'il règne souverainement le destin de tout homme, de toute communauté, faisant concourir tous les événements au bien de ceux qu'il aime. Dire que le Christ est roi, c'est reconnaître l'amour du Christ qui donne autorité sur nous. C'est reconnaître que le Christ a le droit de nous aimer comme il l'entend, autant qu'il veut, et que notre premier devoir à nous, c'est de l'accueillir, de l'écouter, de l'aimer et de lui servir. Dire que le Christ est roi, c'est dire enfin qu'aucune puissance, quelle qu'elle soit, ne peut être mise en concurrence avec lui, et que le pouvoir politique n'est pas au-dessus de la loi naturelle que Dieu a inscrite en chacun et qu'il doit respecter. Nous pourrions dire qu'à l'heure actuelle, dans notre Occident et en France notamment, si nous n'avons plus affaire à une dictature militaire, nous sommes cependant confrontés à un totalitarisme financier et à une forme d'esclavage économique, libéral et libertaire. Oui, un totalitarisme d'autant plus pernicieux qu'il avance masqué, même si certains symptômes visibles commencent à apparaître. Il suffit de bien les voir et de discerner. Totalitarisme, je dirais, soft, totalitarisme soft, mais qui nous invite à être vigilants et surtout à reprendre sans nous décourager le chemin que le Christ nous a tracé pour que nous soyons vraiment libres. La fête du Christ, roi de l'univers, qui conclut l'année liturgique. Passons à l'année A, donc la liturgie, nous donne aussi donc l'orientation définitive de notre vie, l'avènement du Christ en gloire. À la fin des temps, en effet, le Christ viendra acheter toute l'œuvre de son Père, qu'il a commencé par son incarnation. Il sera établi Seigneur sur toute la création, et ainsi tout sera définitivement accompli. En célébrant cette fête, nous voulons signifier que notre vie a un sens, qui s'inscrit dans l'histoire de l'humanité et qui concerne aussi tous les hommes, tous les peuples. Notre vie a un sens, c'est-à-dire une orientation. Oui, elle s'inscrit dans un déroulement voulu. Nous avons un but que Dieu lui-même nous a désigné. Non, notre vie personnelle n'est pas ballottée par des forces contradictoires, produits du hasard et de la nécessité vers un avenir totalement indéterminé. Non, notre vie personnelle et la création tout entière tirent leur origine de Dieu et trouvent leur fin en lui. Notre vie a donc un sens, car elle a un point de départ et un point d'arrivée, et une force directrice qui sont l'œuvre de Dieu lui-même en nous. Car le royaume des cieux est au-dedans de nous. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous, partageant en tout notre condition d'homme, à l'exception du péché. Il nous a révélé sa gloire sur la croix, lorsqu'il nous a aimés, oui, jusqu'à la fin, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile. Exalté à la droite du Père, Père, il règne déjà sur l'univers. Même si nous sommes encore dans le temps de l'attente, de la patience qui précède sa venue définitive. Tout au long de l'année, l'Église médite les saints mystères de la vie du Christ, dont elle nourrit sa prière, son action de grâce, son adoration. Car le Christ Jésus, nous l'avons entendu de saint Paul aux Colossiens dans la deuxième lecture. Le Christ Jésus est la tête de l'Église, en qui habite toute plénitude. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. La primauté. Et c'est cette primauté, frères et sœurs, que cette solennité du Christ roi veut nous rappeler. À la charnière de deux années liturgiques, elle donne déjà l'orientation de ce temps dans lequel nous allons entrer dimanche prochain, le temps si précieux de l'Avent, à savoir que toute la vie du chrétien se déroule entre deux avènements, deux avants, celui du Christ dans la chair et celui de son retour dans la gloire. Entre le temps de la grâce et celui de la gloire, nous devons nous efforcer de vivre au cœur de ce monde, de la vie du Christ, tout en étant tendus vers son royaume, ce royaume qui vient. Cet entre-deux doit donner sens à toute notre vie, doit nourrir notre espérance, qui n'est pas un petit espoir de lendemain qui devrait chanter. L'espérance, c'est l'espérance que Dieu nous donnera sa grâce dans ce monde et sa gloire dans le monde à venir, comme le bon larron l'a bien si bien compris. Alors, accueillons le règne de Dieu.